Moi, je suis toujours émerveillé par la présence de Dieu, par la façon dont il guide les choses, dont il dirige les choses. Les trois textes qui ont été lus ce matin, je les avais préparés, mais il y a quelques jours, je les ai enlevés parce que j'allais être trop long. Sinon. Et les chants, si j'avais voulu choisir des chants pour mettre dans mon message, j'aurais pas pu choisir mieux que ceux qui ont été chantés ce matin. Alors, je ne vais pas non plus recasser l'ambiance, parce que c'est aussi ce que je voulais dire au début, mais parler un petit peu d'actualité. Depuis plus d'une année, la France a-t-elle la cible privilégiée de terroristes, pour la plupart liés à des mouvements extrémistes se revendiquant de l'islam. Je dis ça avec des guillemets dans tous les sens, et vous comprenez bien pourquoi. Parce qu'il y en a aussi qui sont simplement fous. Micro, un petit peu, voilà. Le sentiment général qui se dégage, c'est d'abord l'horreur. L'horreur. L'horreur, pour reprendre un terme biblique, au-delà de tout entendement, de tout ce qu'on peut comprendre, de tout ce qu'on peut concevoir pour un être normalement constitué. Difficile à voir, difficile, impossible à imaginer et encore plus à comprendre. Et tout de suite après, alors que les médias nous abreuvent de tous les détails possibles et repassent ça en boucle, vient la peur, la trouille. Les gens ont peur, on a peur, le monde a peur. Malgré toutes les affirmations officielles, les déclarations tonitruantes et les polémiques politiciennes, il faut bien se résoudre à voir la vérité en face. Nos démocraties sont dépourvues de solutions pour enrayer cette vague de violence. Il n'y a pas de risque zéro. Peur, crainte, trouille, panique, mettez le mot qui vous plaira dessus. La société qui semblait tellement unie après le mois de janvier, tout d'un coup s'effrite et part dans un chacun pour soi, même pire que ça, chacun accusant l'autre de ne pas avoir fait ce qu'il fallait au moment venu pour trouver la solution. Réfléchissons un peu, comment pratiquement pourrait-on empêcher un fou, je veux dire un fou, excusez-moi du terme, je mets aussi en parenthèse, de foncer dans une foule avec un camion frigo? Comment l'empêcher? Comment empêcher qu'un autre individu suivent deux policiers chez eux et elle les assassiner à la maison. Comment rassurer l'opinion? Comment les gouvernements peuvent rassurer l'opinion? Quelle réponse personnelle nous donner à nous, 60 millions de Français, personnellement, nous donner à nous, qui exigeons une sécurité totale, pour nous? Dernièrement encore, l'assassinat de ce prêtre à l'intérieur d'une église. Est-ce que vous avez déjà pensé que tout d'un coup, quelqu'un pourrait rentrer ici et faire un carton? Je vous cache pas que moi j'y pense toutes les fois où je suis là, mais c'est pour tout le monde la même chose. Comment ne pas prononcer alors un mot qu'on trouve dans la Bible, qui est le mot de persécution? On a tellement parlé souvent de ces persécutions, mais qui étaient autre part. Comment ne pas comprendre ce mot de persécution dont la Bible nous parle dans la fin des temps, lorsque la cible est souvent choisie, entre autres, je dis bien entre autres, parce qu'elle est chrétienne? Nous vivons des temps difficiles qui nous font réfléchir à notre foi et bien sûr toujours tenter de chercher des réponses à nos pourquoi. Nous, chrétiens, cible potentielle entre autres, hein, je dis bien entre autres, nous pourrions seulement nous demander pourquoi Dieu permet cela, après tout. Et nous devons alors bien reconnaître que Dieu n'est pour rien dans cela. Dieu n'est pour rien dans cela. Qu'il s'agit simplement de la perversité et de la méchanceté humaine, n'ayant pas peur des mots, du péché simplement, ou d'une forme d'antéchrist dont la Bible nous parle aussi dans les derniers temps. Alors le plus important, et peut-être que cela nous interpelle sur notre propre comportement et notre manière de réagir, nous chrétiens, en tant que chrétiens, à ces événements. On ne peut pas se contenter de dire « moi je suis chrétien, donc je n'ai pas peur ». Tiens, qui peut dire qu'il n'a pas peur? C'est un raisonnement trop simpliste. Et puis souvent on ajoute encore, si toi t'as peur, je ne vous dis pas la suite, vous la trouverez tout seul. Face à de telles atrocités, la peur semble quand même légitime, pour autant qu'elle ne nous paralyse pas dans nos activités et qu'elle ne remette pas en question notre foi personnelle. La Bible nous dit aussi, et c'est la parole de Dieu adressée aux hommes, à nous, la Bible nous dit aussi, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Alors que penser, que faire, que dire? Moi, je n'ai pas la réponse. Comme ça qui tombe. Mais il me semble qu'il y a des points importants qu'on peut trouver au cadre de notre lecture biblique, dans notre foi, et qui peuvent nous aider dans notre démarche à garder ou à retrouver la paix, la sérénité, en tout cas, une foi qui nous parle vraiment. Je vous donne trois pistes, entre autres, il y en a des foules, mais trois pistes entre autres. Garder son calme et rechercher la paix de Dieu, première piste. La deuxième, qui me semble la plus importante, c'est nous souvenir des valeurs qui découlent de notre foi et les affirmer. Puis la troisième, un impératif biblique, prier pour nos ennemis. C'est la Bible qui nous le demande. Il me semble que le chrétien, spécialement, le chrétien doit se démarquer dans son comportement. Garder son calme. Ce n'est pas facile de garder son calme. Ce n'est pas facile d'être emporté, de ne pas être emporté, de ne pas se laisser aller emporter, de ne pas être révolté. Quelque part, c'est logique. Mais garder son calme nous aide à réfléchir aux risques encourus, entre autres par notre foi. Ma foi fait de moi une cible potentielle. On est bien au moment de la persécution. Ma foi fait de moi une cible potentielle. Tout en acceptant que nous sommes impuissants, nous-mêmes, mais que Dieu a les solutions pour nous aider à vivre avec lucidité pendant ces temps difficiles. Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » On l'a chanté ce matin. J'ai vaincu le monde. Affirmation claire de Dieu qui s'applique exactement pour nous à ces temps de troubles que nous vivons. Se souvenir que Dieu sait tout. Vous aurez. Et ça, il le dit aux gens de l'époque, mais il nous a laissé sa parole. Et dans sa parole, c'est écrit. Et nous qui la lisons, il nous interpelle. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais il nous en donne et nous explique le dénouement. J'ai vaincu le monde. Et en ceci, il nous apporte sa paix, la paix en lui. Prenez courage. Ce texte est une aide certaine pour nous. Il veut nous apporter la paix et nous invite, en tout cas, à recadrer ce qui fait notre force. Notre force, et donc à nous souvenir des valeurs qui découlent de notre foi. Retrouver ces valeurs, retrouver les valeurs de notre foi, les professer, mais c'est plus que jamais d'actualité. Nous savons que Jésus-Christ est notre sauveur. On l'a chanté ce matin, on a parlé de son sacrifice à la croix. Ok, ça c'est bon, c'est intégré, imprimé, rentrer dans le disque dur. Mais encore bien plus aujourd'hui, il est important de déclarer qu'il est notre Seigneur. Qu'il est notre Seigneur. C'est pas la même chose. Le Seigneur de nos vies. Et que c'est lui qui règne en nous. C'est lui qui règne en nous. C'est celui, ce Christ en nous, qui règne, qui parle, qui agit aujourd'hui en nous. Et par qui nous vivons? C'est de lui que nous devons tout. À lui que nous devons tout. Face à la peur, à la crainte, à la trouille, nous nous devons d'affirmer et de mettre en avant notre foi en Christ et notre certitude dans son aide pour diriger nos vies. Nous avons tout en lui. C'est le témoignage d'Ésaïe qui se souvient des promesses de Dieu lui-même et dont découle une foi vivante en pensée, en parole, en acte. Ésaïe 12, verset 2. « Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » La foi, notre foi personnelle, nous rappelle par l'Écriture que c'est Dieu qui nous délivre et nous donne la possibilité de dire « je ne craindrai rien ». Ce qui n'est pas la même chose de dire « j'ai pas peur », mais « je ne craindrai rien ». Affirmer, professer, nous sommes une église de professants. Voilà un mot qui vient d'actualité. Professer que Jésus-Christ est notre Seigneur et celui sur qui nous comptons pour tout dans notre vie et en qui nous avons pleine confiance. Mais cela sans aucune idée de mettre en avant quelques supériorités de notre croyance par rapport à une autre, ni de défiance à l'égard de quiconque. Non, non. Dieu ne nous demande pas d'en rajouter et d'aller claironner en profitant de se montrer. Non. Ce serait se glorifier au lieu de lui rendre toute la gloire à lui. Concentrons-nous nous-mêmes sur nos certitudes et leurs fondements. Et au-delà de les affirmer, agissons, c'est-à-dire vivons les instants, instant après instant, avec la grâce de Dieu, avec son aide, avec sa force et sous son regard. Et c'est aussi l'affirmation de l'Église de Dieu, mais aussi, ça doit être pour nous, Église locale, notre credo, notre message, le témoignage de notre Église face à ces événements, particulièrement aujourd'hui. Professer notre foi en Dieu et dans sa toute-puissance. Et puis, un autre texte central qui me semble terriblement important, encore plus lumineux dans ces temps sombres, il nous rappelle la force, la puissance de l'amour de Dieu. Et c'est ce texte que j'aimerais vous laisser aujourd'hui et qu'on va afficher maintenant, que nous allons lire ensemble. Romains 8, 31. « Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Ce texte, fort, relisez-le, gardez-le ce texte, relisez-le. Comptez tous les nids qu'il y a dedans. Je les ai mis en jaune, vous les verrez après. Mais il est tellement fort, il nous donne la clé principale pour vivre en paix dans ces événements qui nous semblent terribles, pour passer au-delà de notre peur, si nous en avons une. Il ne s'agit pas d'entrer dans une surenchère, encore une fois, en disant que notre Dieu est le meilleur, et d'aller le claironner sur la place publique, ce qui ne ferait qu'attiser encore la haine, non. Écoutons plutôt ce qu'il affirme, lui, le Dieu créateur, le Dieu trois fois saint, Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu répond point par point aux situations précises que nous vivons aujourd'hui et les balaye d'un revers de la main. Quelqu'un est-il contre nous ? Peu importe. Dieu est pour nous. Quelqu'un nous accuse-t-il ? Quelqu'un nous accuse-t-il ? Nous accuse de quoi ? De ne pas correspondre à ce dont il a envie ? Mais peu importe, puisque c'est Dieu qui justifie et Jésus-Christ qui nous a déjà justifiés. Quelqu'un nous condamne-t-il ? Ne serait-ce à mourir ? Mais peu importe, Jésus nous a rachetés. Et à quel prix ? Jésus nous a rachetés. Il nous invite à réfléchir, ce texte, sur la chose, la seule chose importante, effectivement, pour nous, et à l'ancrer au fond de nous-mêmes d'une manière indélébile. Et notre texte nous le dit, rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien, je le répète, rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est cela, et uniquement cela, dans ces moments difficiles, que doit être notre pensée. C'est là qu'elle doit être notre pensée. La seule question alors qui doit nous tarauder et nous intéresser, est-ce que j'ai suffisamment de foi pour comprendre que cet amour est la chose la plus importante pour ma vie ici-bas ? Est-ce que, réfléchissons chacun à ça, est-ce que moi, intérieurement, je me pose la question pour moi-même, ma foi est suffisamment grande pour comprendre que la seule chose qui est importante, c'est l'amour de Dieu pour moi. C'est l'amour de Dieu pour moi. Si j'ai cette certitude, le reste ne compte pas. Le reste ne compte pas. Et nous trouverons dans la parole des quantités d'encouragement pour nous aider dans chacun des moments difficiles où la peur pourrait reprendre le dessus, où le doute pourrait reprendre le dessus, où le trouble pourrait reprendre le dessus. Affirmer notre foi, professer notre foi autour de nous, mais aussi ensemble, en la partageant vraiment dans toutes les possibilités qui nous sont offertes avec les frères et sœurs. Regardez tous les nids qui sont écrits en vers. Aucune de ces choses ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu ? Cherchez, cherchez bien. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. C'est la certitude que nous devons avoir. Et puis enfin, troisième chose que nous devons faire, puisqu'il est parlé de devoir, mais que nous pouvons faire et que nous devons faire, oui, personnellement, mais comme quelque chose de naturel, chacun, même si nous avons souvent du mal à le comprendre ou à l'accepter, et qui nous rapprochera encore de Dieu et des autres hommes, prier pour nos ennemis. Quelle demande curieuse. Luc 6, verset 28, « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » C'est cette pensée que Dieu veut que nous ayons en nous. Bénir et prier. Dieu nous demande de bénir et de prier pour tous les hommes. Tiens la définition du prochain. Quand on est enfant à l'école du dimanche, on lit cette parabole, notre prochain. Puis bien sûr, on demande ce que c'est que le prochain. Voilà, ben, le prochain, c'est celui qui est là, simplement, quel qu'il soit. Ce n'est pas à nous de juger qui il est. C'est Dieu qui le voit. Est-ce que vous pensez que le bandit sur la croix était plus terroriste qu'un autre qui va se faire sauter ? Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de le juger. Dieu seul le sait. Bénir et prier, donc aussi pour ceux qui nous maltraitent ou ceux qui nous maudissent, c'est aller dans le sens de l'ouverture et de l'accueil que Dieu demande. C'est cette pensée que Jésus a eue pour chacun de nous en voyant notre péché et en regardant notre péché. C'est cette pensée qu'il a eue sur la croix. Alors il nous invite à avoir la même pensée pour notre prochain, quel qu'il soit, ami ou ennemi, celui qui croisera notre chemin. C'est une invitation à remettre ceux pour qui nous prions au secours et à la grâce de Dieu sur le chemin du Christ, sur notre chemin, celui où on le croisera. Dieu, sur la croix, Jésus-Christ, crucifié, a déjà fait sa part du chemin et continue jour après jour à être cette lumière sur notre sentier, cette lampe allumée qui guide nos pas. Craig a parlé ce matin d'un chemin fin. Ce n'était pas le mot précis, c'est un chemin étroit. Étroit. Mais c'est un anglicisme. C'est le chemin étroit. Sur ce chemin, on a besoin de ne pas voir de voir le caillou qui est devant notre pied pour ne pas chuter dedans. Vous savez comment un petit gravier dans une chaussure de marche peut vous empêcher de marcher. Quand vous le sortez, il est minuscule, vous le trouvez à peine. Pourtant, il vous handicape. Et Dieu a mis cette lumière sur notre chemin. Faisons aussi, nous, notre part du chemin, en partageant ensemble et avec lui ce fardeau ou nos craintes dans la prière, aussi pour ces gens qui nous paraissent tellement, tellement éloignés de lui. Partager, en fait, c'est partager une prière que Dieu nous demande. Partager notre foi pour ces gens dans la prière. C'est difficile, mais c'est un super exercice. Je vous invite vraiment à le faire, à le vivre. Alors ça peut être des terroristes, mais ça peut être aussi quelqu'un qui nous, une tête qui ne nous revient pas, simplement. Un voisin qui râle, qui fait du bruit toute la nuit parce qu'ils font une monstre fête chez eux. Voilà, voilà. Ce sont toutes des occasions de contact, même par l'Esprit de Dieu. Moi, je pense que si nous prions pour ces gens, Dieu peut les interpeller directement aussi. Ça, c'est une question de foi. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui le fera. Mais Dieu nous invite à partager, comme il nous invite à partager ce repas. Pour nous souvenir et proclamer de ce que lui a accompli sur la croix, mais aussi pour annoncer au monde notre joie d'avance pour le jour de son retour. Pour le jour de son retour, où il viendra nous chercher et où il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni larmes, ni peur, ni crainte. Dans Ésaïe 58, nous lisons « Voici, dit Dieu, le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » J'aimerais terminer ce message en lisant la suite de ce texte d'Ésaïe. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasis l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans vos prières pour ceux qui vous maudissent et qui vous aiment. Amen.
Bonjour à tous. Merci Jean-Paul de nous apporter des encouragements avec tout ce qui se passe. C'est vrai qu'on se demande si toutes ces choses ont un sens. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'Église, le corps de Christ, son épouse, a un sens. Et très certainement que dans ce monde, c'est un contresens. Et c'est ce qu'on veut être, et ça passe aussi par la communion, ça commence par là. Et ces temps de communion sont forts et bénis. On veut partager les annonces. Encore un petit mois de vacances, donc on est encore pendant une période calme. Hein. Donc samedi, le sport ne prend pas de vacances, donc 10h45, pardon, le cross-training. Pour ceux qui veulent bouger un peu. Dimanche, notre culte, 10h30. Et puis, on passe directement à la semaine suivante. Et le samedi 20, à 10h30 ici, il y aura la bénédiction du mariage de Sandy et Elodie. Et je vais donner la parole à Jean-Paul pour nous expliquer un petit peu ce déroulement.
Alors, Sandy, on l'a déjà dit, donc samedi 20 août, bénédiction du mariage de Sandy et Elodie. Je les ai vus tout à l'heure, il me semble, Sandy et Elodie. Ils sont descendus à la garderie, oui. En principe, vous avez tous reçu un mail d'invitation. Puisque Sandy et Elodie souhaitent vraiment que toute l'Église soit invitée. C'est un mariage spécial, comme est spécial la bénédiction du mariage de Sandy et d'Elodie, qui sont mariés depuis plusieurs années, qui ont fait cette démarche de foi, petit à petit, et on se réjouit vraiment de cela. Alors, vous avez donc reçu un mail d'invitation à venir les entourer ce jour-là. Ils comptent sur nous. Ils comptent sur nous, hein. On est... Voilà, ils comptent vraiment sur nous, c'est important. Cette cérémonie sera suivie non pas d'un repas où on s'assied et où on ne fait rien, mais d'un repas canadien, c'est super. Donc, chacun apporte quelque chose, et puis on mettra ça tout ensemble. Donc, juste pour parce que je ne sais pas si on avait tous bien pigé ou bien suivi le truc, on a fait une liste au fond. Si vous n'avez pas déjà contacté Sandy et Elodie, vous marquez ce que vous faites et pour combien de personnes. Il n'y a pas besoin de faire pour l'apéro, pas besoin de faire de boisson et pas besoin de faire de dessert. Donc c'est tout le reste. On peut faire des grillades, il y aura ce qu'il faut pour faire des grillades. Donc on amène tout, on met tout sur un grand buffet et on fait la fête avec eux comme ça. C'est une super idée. On veut vraiment se réjouir de cette simplicité. Donc notez-le sur le truc au fond. Il va rester encore dimanche prochain, on fera la même annonce. Si vous avez la moindre question... Vous contactez Elodie ou Sandy, et puis il n'y a pas de souci. Ou Raymond et moi pour des questions plus pratiques autrement. Et puis on aura besoin de coups de main tout au long de la pour mettre en place, pour ranger, pour tout. On fait ça tranquille dans le cadre de l'Église avec encore d'autres amis qui vont se joindre à nous. Et on va s'en réjouir vraiment de cette demande de bénédiction et prier pour ce couple qu'on aime.
Merci. Donc... cochez vos agendas et puis on se retrouve ce samedi ici pour vivre un temps fort. Des annonces aussi de... On a parlé ce matin aussi des fois d'épreuves, de difficultés et on veut penser particulièrement aussi dans cette période à Loulou Sbinden qui était hospitalisée depuis un certain temps, qui est sur une phase de fin de vie, et ce qu'on peut dire, c'est qu'il l'attend avec grâce, dans la paix. Il aspire à aller enfin, après plus de 90 ans, plus 92, 13 de vie ici et de vie ici-bas. Il aspire maintenant à retrouver son sauveur, et Loulou... On pensait qu'il pourrait rentrer à la maison, mais il ne rentrera pas à la maison, c'est un peu trop compliqué. Donc il est depuis jeudi à la maison de retraite médicalisée de Chalex. Donc on peut penser à lui, on pense à Ruth. On avait dit qu'il ne fallait pas faire trop de visites pour le fatiguer, mais il ne faut pas non plus se bloquer. Hein, quand quelqu'un avec qui on a passé du temps est en fin de vie, je pense que c'est aussi sympa de pouvoir aller passer un moment, prier. Donc quand je dis un moment, c'est 5-10 minutes, et puis le voir. Donc moi j'ose dire que les portes ne sont pas fermées pour ceux qui voudraient aller le visiter. Et puis on peut aussi penser particulièrement à Ruth qui reste à la maison, suffisamment vaillante pour continuer. Mais voilà, il faut les enfants mettre dans la présence quotidienne. Elle se rappelle très bien de tout ce qui est loin, mais les choses... près, la mémoire courte est altérée et puis voilà, tout n'est pas facile, donc elle a aussi besoin d'être entourée. Didier est rentré à la maison. Il nous a envoyé un petit mail et pour tous ceux qui ne l'auraient pas reçu, je lis ce qu'il a écrit sur une petite partie. C'est maintenant avec l'aide de la nutritionniste qui me suit et la nourriture par sonde qu'on va essayer de me remonter. Un certain défi quand même. Mon séjour à l'hôpital avec les examens à jeun et l'intervention m'ont fait perdre le poids que j'avais gagné au début. Et pour vous dire, Didier, pas lourd du tout. Voire un peu plus, si même. Là, je suis en phase d'adaptation avec ce que je peux supporter en passage par la sonde et les objectifs de poids. On cherche le bon équilibre. Je reste encore bien faible. J'entame un nouveau mode de vie, mais le moral est bon. Là encore, pensons à Didier Loredan. Dans une phase de vie aussi difficile, ça a l'air de rien, mais quand on est nourri par une sonde et qu'on a plus, c'est un plaisir aussi de manger. Et voilà, c'est difficile. Et on veut penser à Didier particulièrement. Les nouvelles de Roland aussi. Roland, où rien de bien nouveau, sinon que maintenant il a des migraines et sûrement dû aux médicaments. Et puis aussi l'angoisse de l'attente du prochain rendez-vous cardiologue. Alors que jusqu'à maintenant, rien n'a été décelé dans cette difficulté avec un repos total exigé. Donc on veut aussi penser beaucoup à Roland. Et puis on a reçu cette semaine aussi un mail d'Anne-Lise qui, dans ce mail, sur la fin du mail, loue le Seigneur pour le temps qu'elle a pu passer ici. Pour cet anniversaire, et vraiment elle dit que c'est un des plus beaux moments de sa vie, et elle est très très heureuse d'avoir pu vivre ce temps avec nous. Et voilà, Anne-Lise a eu un rendez-vous en dermatologie mercredi, et je crois que le médecin était un peu choqué de sa jambe, et une photo est envoyée au chef de clinique qui a décidé de l'hospitaliser très rapidement pour une dizaine de jours. Donc elle rentrera à l'hôpital demain lundi au cantonal pour une période, et voir ce qui peut se passer. Elle met que les plaies guérissent très lentement et souvent les douleurs sont insoutenables. Elle a maintenant des gouttes de base de morphine qui n'empêchent pas vraiment la douleur et qui, une fois qu'elle est là, est difficile à chasser. Et elle finit cette phrase en disant, c'est notre analyse, hein, mais imaginez, j'ai encore vu la main du Seigneur lorsque je pleurais de douleur. Il m'a délivré et j'ai pu passer plusieurs nuits calmes en dormant comme un petit bébé. Voilà, le Seigneur est là. Mais on veut penser vraiment, vraiment, vraiment aussi à Anne-Lise dans ces temps difficiles. Il y a aussi un certain nombre de nos frères qui vivent des temps difficiles. Et on veut penser quotidiennement à les soutenir dans nos prières. Le Seigneur nous demande de persévérer dans la prière pour les uns et pour les autres, de pleurer avec ceux qui pleurent et d'être joyeux avec ceux qui sont joyeux. Et puis, on veut aussi les entourer, simplement. Souvent, on n'a pas de solution. Souvent, on ne sait pas comment s'y prendre. Il suffit d'aimer. On a parlé de l'amour de Dieu ce matin. Et l'amour nous aime. Et nous, on a besoin de s'aimer les uns les autres. Et c'est par ici que commencera aussi cette contre-culture qu'on doit amener dans ce monde. L'amour de Dieu se transmet de la meilleure des manières par ses enfants qu'il a adoptés ici sur la terre. Cette semaine, on est invité à prier pour les chrétiens d'Oman, pays situé à l'est de la péninsule arabique. On veut aussi continuer de prier pour les chrétiens qui sont persécutés dans leur pays. Voilà pour les annonces. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à partager? Sinon, je vous invite à vous lever. Et dans 2 Jean, au chapitre 1 et au verset 1, on lit ce texte de la part de l'ancien à la dame qui a été choisie et à ses enfants que j'aime dans la vérité. C'est le cas pour cette dame ici, cette église. Et ce n'est pas moi seulement qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Nous vous aimons à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Oui, la grâce et la compassion et la paix seront avec nous dans la vérité et l'amour. Elles viennent de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père. Amen. Allez en paix.